Bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que pour nous, c'est un grand privilège de nous retrouver ensemble, surtout en ce jour de fête de Noël de l'Église, où nous allons rappeler par différentes belles choses que le Dieu invisible, un jour, s'est fait chair parmi nous. J'ai beaucoup aimé les chants ce matin dans ce culte d'adoration. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a beaucoup été question du roi, n'est-ce pas? D'ailleurs, le premier chant, prosternez-vous devant votre roi. N'est-ce pas? C'est vrai qu'en tant que chrétien, il est très facile de comprendre que Jésus-Christ est notre roi. Donc là, on n'a pas trop de problèmes, n'est-ce pas? On peut comprendre relativement que Jésus-Christ est prophète, parce que nous savons qu'il a été un homme qui a parlé de manière extraordinaire. Mais très peu d'entre nous reconnaissent que Jésus-Christ est sacrificateur. Quel est ce mot barbare? Mais c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, maintenant. Nous allons lire un texte, mais avant de le lire, je vais simplement rappeler ce que nous avons vu la dernière fois. Nous sommes entre nous, alors je peux me permettre quelque chose, mes amis. N'hésitez pas à me dire, Pierre, s'il te plaît, répète. Pierre, je n'ai pas compris, je vais répéter. Parce que ce que j'aimerais nous apporter, notre prière, c'est qu'elle puisse nous aider à marcher dans la crainte du Seigneur. Alors, n'hésitez pas à me dire, je n'ai pas compris. Je vais répéter, sans aucun problème. D'accord? Et pour ceux qui prennent des notes, bien sûr, j'encourage tout le monde à prendre des notes, je vais essayer de parler lentement, surtout pour les références. Amen? Ok, donc on va lire ensemble dans Hébreux chapitre 8, versets 1 à 6. Donc c'est un passage qui est tellement riche que je le ferai en deux prédications. Donc aujourd'hui, nous allons voir la partie A. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque ce sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Amen. Hébreux chapitre 8, verset 1 à 6. Donc c'est un passage qu'on aura soin de réfléchir au moins sur deux prédications. Donc je vais simplement rappeler ce que nous avons vu la dernière fois. Donc c'était la fin du chapitre 6. Nous avons vu que notre seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée en Jésus-Christ. Nous avons vu que cette espérance est vivante, se trouve au-delà du voile, là où Christ est entré comme précurseur. Nous avons vu aussi que cette espérance est meilleure que tout ce que pouvait nous apporter le culte lévitique, parce qu'elle nous introduit directement dans la présence de Dieu. C'est ce qu'on a vu derrière toi, que en Jésus-Christ, l'espérance que nous avons en lui nous introduit directement dans la présence de Dieu. Dans toute étude, il est important de toujours garder à l'esprit l'idée principale. Dans toute réflexion, il est important de ne pas perdre le fil de son raisonnement. Dans tout travail que l'on entreprend, il est important de savoir où l'on va. Dans toute recherche, il est important d'avoir sous les yeux le sujet principal. Et ici, là, l'auteur nous dit que le sujet, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. C'est là, j'allais dire, la clé qui nous permettra d'entrer directement dans les merveilles de la présence de Dieu, pouvoir vivre une vie chrétienne où c'est la vie même de Dieu qui nous remplit. Pour nous aider, il est bon de revenir un petit peu voilà. En Israël, il y a certaines choses à savoir. En Israël, il y avait trois personnes qui avaient une mission spéciale et fondamentale afin d'assurer l'existence du peuple de Dieu. D'abord, le roi. Donc là, c'est l'image du grand roi David. Bon, vous ne voyez pas très bien, mais c'est le roi David qui était un personnage très important dans la vie du peuple d'Israël, le roi. Deuxièmement, comme personnage important, le grand souverain sacrificateur. Donc le roi était choisi pour diriger le peuple de Dieu, le sacrificateur, choisi par Dieu, descendant de la tribu de Lévi, donc Aaron était le tout premier grand souverain sacrificateur, sa mission était d'offrir des offrandes et des sacrifices sur l'autel devant Dieu pour le bien du peuple de Dieu. La mission était d'offrir des offrandes et des sacrifices devant Dieu pour le bien du peuple. Et troisième personnage important, c'était le prophète, choisi par Dieu pour avertir le peuple et lui rappeler les termes de l'alliance conclue entre Dieu et la postérité d'Abraham. Et les termes de l'alliance, c'était quoi? C'était adorer l'Éternel comme le seul vrai Dieu et le servir. Donc trois personnages très importants dans l'histoire du peuple d'Israël. Et si nous comprenons ces trois personnages, mes amis, cela nous permettra de mieux comprendre la personne bénie de Jésus-Christ. Et en Israël, chacun devait rester à sa place. Chacun avait un rôle bien précis. Chacun devait rester à sa place. Aucun ne pouvait avoir deux missions en même temps. Sauf cas très rares. Un exemple. Un sacrificateur pouvait être à la fois sacrificateur et prophète. Exemple, Ézéchiel ou Jérémie. Donc c'était une personne qui avait deux offices en même temps, mais c'était assez rare, puisque chacun respectait sa mission. Le roi pouvait avoir des paroles prophétiques. Dans David, dans Acte 2, verset 30, David n'était pas prophète, mais il a pu avoir des paroles prophétiques que la parole de Dieu nous rappelle, notamment dans Acte 2, verset 30, il est dit, comme il était prophète, donc en parlant de David, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Donc l'apôtre Pierre rappelle les paroles prophétiques de David et le nomme prophète, mais ce n'est pas prophète dans le sens fort du terme. Le roi ne pouvait jamais offrir de sacrifice à Dieu. C'est un péché. Saül l'a fait à son détriment. Jéroboam, dans 1 Roi, chapitre 13, verset 1, l'a aussi fait, pour son malheur, pour sa ruine. Ozias, qui était un bon roi, malheureusement, par orgueil, a offert un sacrifice à Dieu, et Dieu l'a frappé. Il fut lépreux jusqu'à la fin de sa vie. Dans 2 Chroniques, verset 26, chapitre 26, verset 16 à 20, qui nous rappelle que certains rois ont voulu avoir un rôle qui n'était pas réservé pour eux. Mais ce qui est extraordinaire, mes amis, seul Jésus-Christ occupe à la fois ces trois missions. Notre Seigneur Jésus-Christ est à la fois le roi, il est assis sur son trône, il est dit dans Hébreux 8, il s'est assis à la droite du trône de la majesté divine. Il n'y a aucun problème pour comprendre que Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est aussi prophète. Dans Matthieu 16, versets 13 à 14, ce passage que nous connaissons bien, où Christ, à un moment donné, va tester un petit peu la foi de ses disciples, leur pose la question, « Qui dites-vous que je suis au dire des autres ?» Matthieu 16, verset 13, « Qui suis-je au dire des autres, des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Donc, Jésus était considéré comme un prophète. Et la merveilleuse nouvelle aussi, nous allons voir maintenant, c'est que Jésus-Christ est aussi sacrificateur. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ occupe les trois offices. Roi, prophète et sacrificateur. Dans le peuple d'Israël, il y a aussi des éléments importants à savoir dans la vie du culte. D'abord, le temple. On ne voit pas très bien. Hein? Vous voyez le temple, là? Moi, je le vois très bien. Voilà, le temple. Là, il est en trois dimensions. Voilà. En tout cas, en Israël, il y avait le temple, qui était un lieu important dans la vie du peuple d'Israël. Puisque le temple était le lieu de la rencontre entre Dieu et son peuple, au travers des sacrificateurs. Il y avait bien sûr, il y avait l'agneau pascal. Hein, l'agneau, vous voyez l'agneau là. Hein, cet animal qui allait être offert en sacrifice. Et en Israël, il n'y avait aucun problème pour le peuple de concevoir les sacrifices. Parce que les sacrifices faisaient partie du culte. Ils savaient qu'au travers des sacrifices, Dieu accordait le pardon. Donc c'était un rituel qui était connu du plus petit jusqu'au plus grand. Parce qu'il y avait des milliers d'animaux qui étaient offerts tout le long de l'année par les différents sacrificateurs. Donc ça, c'est quelque chose de très connu. Là, l'image de grands sacrificateurs. Hein. Voilà. Donc, ce qui est important, là, vous voyez, le grand souverain sacrificateur, une fois par année, va recueillir le sang pour faire ce qu'il doit faire. On verra ça tout à l'heure. Très important. Voilà, donc l'agneau est offert en holocauste. Là, nous voyons le grand souverain sacrificateur qui a recueilli le sang et qui l'apporte devant le propitiatoire, devant Dieu, une fois par an. Et là, nous voyons les cornes de l'autel. Alors, retenez les cornes de l'autel. C'est important ça, pour tout à l'heure. Là, ça s'arrête. Le point capital de ce qui vient d'être dit est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Il y a deux grandes questions à se poser, mes amis. Où est Jésus maintenant? Et qu'est-ce que cela change pour moi? Et deuxièmement, que fait-il là où il est? Et qu'est-ce que cela change pour moi? La Bible nous affirme que notre Seigneur Jésus-Christ est assis dans les cieux à la droite du Père. Christ est assis dans les cieux à la droite du Père. Amen. Mais oui, mes amis, il faut dire Amen avec force. Notre Seigneur Jésus-Christ est assis dans les cieux à la droite du Père. Mais qu'est-ce que cela change pour moi? Tout. Le fait que Christ soit assis à la droite de Dieu change tout pour moi. Pourquoi? Parce qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il est entré dans le ciel pour chacun d'entre nous. Le chemin vers le trône de la grâce et de la miséricorde est ouverte. L'accès direct à Dieu est possible. Dieu reçoit favorablement toute personne qui se tourne vers lui. Dieu reçoit favorablement toute personne. Je peux me présenter devant Dieu à tout moment si je le souhaite, mes amis. Je peux. Si je désire rencontrer Dieu personnellement, c'est possible. Parce que Christ est assis à la droite du Père. Amen. Deuxièmement, parce qu'il a tout accompli pour que nous puissions recevoir la vie divine. Il est assis à la droite du Père parce qu'il a tout accompli. Cette vie d'en haut qui est capable de me donner la victoire sur le péché et marcher en nouveauté de vie. Christ est assis à la droite du Père pour me donner la vie divine. Le fait que Christ soit assis dans les cieux change tout pour moi, mes amis. Parce qu'il est monté au ciel, il a pu envoyer son Esprit Saint, comme il avait promis à ses disciples, le jour de la Pentecôte. Donc l'Esprit de vérité qui m'accompagnera tous les jours jusqu'au retour du Christ. L'Esprit du Père qui me soutiendra dans mes faiblesses et m'aidera à demeurer en lui. L'Esprit qui fait en moi cette œuvre de sanctification. C'est parce que Christ est assis à droite du Père que l'Esprit peut faire son œuvre de sanctification dans ma vie, jour après jour. Savoir que Christ est assis à droite du Père change tout, mes amis. Amen. Alors que Dieu nous aide à réaliser où se trouve Jésus-Christ. Si j'ai compris où se trouve Jésus-Christ, mes amis, alors ma vie change. Si je comprends que Jésus-Christ est à la droite du Père, alors je réalise qu'il est roi, car seul un roi peut s'asseoir sur un trône. Si Christ est roi, est-il mon roi? Est-ce que je peux dire que Jésus-Christ est mon roi, mes amis? Parce que la Bible dit que Christ, il est roi. Il est assis sur son trône. Mais est-ce que je peux dire que Christ est mon roi? Mais s'il est roi, qu'est-ce qu'un roi attend de moi? Qu'est-ce qu'un roi attend de ses sujets, mes amis? Deux choses principales. Le roi attend d'être servi et de l'obéissance. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce roi merveilleux va nous aider à le servir et va aussi nous aider à lui obéir. Parce que de nous-mêmes, nous sommes incapables d'obéir entièrement à Dieu. Nous sommes incapables de le servir entièrement. Mais Jésus-Christ, par son esprit, va m'aider à le servir. Lui qui doit être servi. Amen. La Bible me dit aussi qu'il est roi, mais qu'il est aussi souverain sacrificateur. En tant que roi, il règne. C'est vrai que Dieu est capable de régner où il veut. Il est capable de faire sa volonté où il veut, car il est tout puissant. Il est capable de faire sa volonté dans les cieux et sur la terre. Par contre, il y a un endroit que Dieu ne peut pas faire sa volonté si nous ne lui accordons pas ce privilège. Vous savez, c'est où? C'est notre cœur. Dieu ne peut pas régner sur mon cœur si moi je ne le désire pas, mes amis. Dieu peut tout faire, c'est vrai. Mais il respecte ma liberté. Béni soit celui, béni soit celle qui a laissé Jésus-Christ régner sur son cœur. Amen. Mais en tant que souverain sacrificateur, que fait-il? Qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit que Christ est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Nous avons vu par ces diapos que le souverain sacrificateur est établi par Dieu pour présenter des offrandes et des sacrifices. Ça veut dire que Jésus-Christ doit lui aussi avoir quelque chose à présenter. Deuxièmement, nous avons vu que le souverain sacrificateur doit avoir un lieu pour offrir les sacrifices. Dans l'Ancien Testament, c'était dans le temple. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a mieux que le temple. Il a le ciel, mes amis. Le ciel est son sanctuaire. Les cieux est son véritable tabernacle. Sur le bois du calvaire, Christ a offert son corps comme sacrifice pour le péché et son sang a été versé pour le pardon des péchés. Ce qui est extraordinaire, c'est ce même sang qui a coulé au calvaire, c'est ce même sang qu'il offre dans le culte éternel auprès du Père. C'est ce même sang, mes amis. C'est ce même sang qui est offert pour la purification de nos péchés, mais aussi pour purifier notre conscience des œuvres mortes. Pour bien comprendre l'œuvre du Christ dans le sanctuaire céleste, il faut bien avoir à l'esprit comment était obtenu le pardon des péchés dans l'Ancien Testament. Si je n'ai pas compris comment mon péché est expié, je ne peux pas comprendre le ministère du Christ pour moi dans le sanctuaire céleste. D'après la loi, comment était obtenu le pardon des péchés? J'ai longtemps cru, comme beaucoup, que le pardon des péchés était obtenu par la mort de la victime. N'est-ce pas? C'est ce que nous croyons tous. Que la victime est morte, le pardon des péchés est obtenu, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai longtemps cru. Mais ce n'est pas ça, mes amis. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'identification à la victime morte qui faisait du sacrifice un moyen d'expiation. En plus de la mort, il fallait obligatoirement l'effusion du sang de la victime sur les cornes de l'autel. Vous rappelez tout à l'heure, les cornes de l'autel. Là. Voilà. Il fallait que le sacrificateur recueille le sang et le mette sur les cornes. Tant que le sang n'était pas mis sur les cornes de l'autel, il n'y avait pas purification. Ce n'est pas le fait que le sang coule qui était important. Il fallait que le sang soit mis sur les cornes de l'autel. Que le sang soit aspergé devant le propitiatoire. L'animal meurt, je recueille le sang et je l'asperge. Je le place sur les cornes de l'autel. Et c'est ainsi, c'est à ce moment-là, que le péché est pardonné, que le péché est expié, que le péché est couvert. C'est à ce moment-là. Et moi, j'ai longtemps cru qu'il fallait simplement que l'animal meure. Non, il fallait tout ce rituel. Bien compris, mes amis, il fallait tout ce rituel. Car c'est l'emploi fait du sang obtenu par la mort pour le péché qui constituait l'expiation et non la mort de la victime. Dans la Bible, le sang, c'est le symbole de la vie. Le sang, c'est la vie, mes amis. Lorsque le sang est répandu, c'est la vie qui est donnée. Lorsque le sang est répandu, c'est la vie qui est donnée, et non pas la mort. Le sang coule pour donner la vie, et non pas la mort. Quand donc le sang du Christ fut versé pour nous sur le bois du calvaire, c'est sa vie qui donna pour nous. Il donna sa vie au travers de son sang. Il donna sa vie pour expier nos péchés, pour que les exigences de la loi fussent accomplies, pour que Dieu soit clément envers nous. Et c'est ce même sang versé sur le bois du calvaire, c'est ce même sang qui présente pour nous jour après jour, dans ce culte éternel, dans ce culte dans les cieux. L'offrande du Fils de Dieu est magnifique et extraordinairement glorieuse pour chacun d'entre nous. Pourquoi ? Il s'est donné une fois pour toutes comme le vrai agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qu'a dit Jean-Baptiste ? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il s'est donné une fois pour toutes comme un sacrifice volontaire. C'était volontaire. Il a donné sa vie par obéissance à son Père, par amour pour son Père, mais aussi par amour pour chacun d'entre nous. Dans son acte de sacrifice, c'est volontairement, par obéissance et par amour. Une fois pour toutes sur la terre, dans le sanctuaire céleste, c'est ce sang, donc c'est cette vie qui est présentée éternellement. Voyez, une fois sur la terre, éternellement dans les cieux. Et en tant que grand souverain et sacrificateur, il parle en notre faveur. Mes amis, est-ce que nous réalisons que au moment où je vous parle, Christ est en train de parler favorablement à son Père de chacun d'entre nous. Mais quel message merveilleux de l'Évangile! Mais quel extraordinaire message! Savoir que Jésus-Christ parle favorablement à son Père pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher de lui librement, à tout moment. Amen. Parce que Christ est notre médiateur. Nul ne vient au Père que par lui. Personne ne peut s'approcher du Père que par Jésus-Christ. Personne. La mort, c'est un acte d'un instant. On meurt une fois. La vie, c'est un état. Notre Seigneur est éternellement vivant devant son Père pour chacun d'entre nous. Il n'est plus mort, il est vivant, mes amis. Toutefois, il faut se rappeler la portée de l'offrande du Christ accomplie dans sa mort. Christ, lorsqu'il est mort pour chacun d'entre nous, il s'est identifié à l'homme. Il accepta de subir pour lui-même et pour les membres de son corps la sentence de condamnation portée contre les pécheurs. Parce qu'il s'est identifié à nous. Il s'est incliné devant la mort prévue par la loi pour tout pécheur, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Isaïe 53, verset 5. Volontairement, il est mort à notre place. Volontairement, il y a eu effusion du sang. Maintenant, nous sommes en paix avec Dieu grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Deuxièmement, en libérant son sang par sa mort, lorsqu'il est mort, le sang a coulé, donc en libérant ce sang, c'est la vie qui a été libérée. Amen. C'est la vie qui a été libérée. Pourquoi ? pour être aspergé devant l'autel, devant son père. Il y a eu effusion du sang, maintenant il y a aspersion du sang. Pourquoi ? Pour que la communion puisse se faire entre le pécheur et Dieu. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais je dis aussi, sans effusion de sang, il n'y a pas de communion avec Dieu. Maintenant, nous pouvons être en communion avec Dieu. Amen. Par sa mort volontaire, le Fils de Dieu nous communique sa vie. Pourquoi ? Pour que nous puissions participer à sa vie divine dans notre humanité ici-bas, comme lui-même a participé à notre humanité. Il a été rendu semblable en nous, comme nous en toutes choses, afin de pouvoir nous secourir de nos faiblesses. Maintenant, nous avons reçu la vie divine pour pouvoir plaire à Dieu. Il y a eu trois maintenant, mes amis. Premier, maintenant nous sommes en paix avec Dieu. Maintenant nous sommes en communion avec Dieu. Maintenant nous pouvons plaire à Dieu. Tout ça à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la mort, à la croix. Amen. Nous sommes en paix, nous sommes en communion et nous pouvons plaire à Dieu. C'est ça le chrétien, mes amis. C'est ça le chrétien. C'est ça la vie chrétienne. Pouvoir marcher jour après jour en paix avec Dieu, en communion avec Dieu, mes amis. Et aussi avec la vie pour pouvoir lui plaire. Amen. Plus rien ne nous séparera de l'amour de Dieu répandu pour nous, mais aussi de notre communion avec le Père. Paul dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, mais rien ne pourra nous séparer de notre communion avec le Père, à cause de Jésus-Christ. Amen. Alors que Dieu nous aide à nous approcher de lui à tout moment. À tout moment. Parce que l'accès du trône est rendu possible par Jésus-Christ, qui est notre précurseur, qui a donné sa vie, pour que nous ayons la vie. Amen. Que Dieu nous aide.